Et tout de suite, une émission spéciale en hommage à Kateb Yacine, proposée par Majid et ses invités, évidemment.
وصرف مر الهموم بالصرف الفاني اسقيني حتى يقول القلب رويت
اسقيني حتى يقول القلب رويت
اسقيني حتى يقول القلب رويت صحبة يسري الحقابي الكناني
صحبة يسري
وإذا لام العدول قل له أشويت قادر ربي الكريم يغفر عصياني
وإذا لام العدول قل له أشويت قادر ربي الكريم يغفر عصياني
ويعفو عفو عن ما جنيته طول زماني
Bonjour, bienvenue à Radio Canal Sud Toulouse. On vous remercie pour votre attention et nous vous proposons, comme convenu, annoncer une émission spéciale hommage au grand écrivain algérien Kateb Yacine qui nous a quittés il y a 30 ans. C'était le 29 octobre 1989. Qu'il nous a quittés plus précisément sur le sol français. C'était à l'hôpital où il a été emporté par une leucémie. Il n'avait que 60 ans. Mais son œuvre plaide encore pour lui. Elle est devenue encore davantage incontournable depuis qu'il nous a quittés. Alors, nous vous proposons modestement un programme qui se veut à la fois une introduction à l'œuvre de Kateb Yassine et aussi une ouverture sur la littérature maghrébine de langue française qui lui doit beaucoup. Alors, Kateb Yassine est là, heureusement, à travers certains documentaires, notamment ce documentaire qui s'intitule « L'amour, la révolution ». Et sur le plateau, nous avons eu le plaisir et l'amitié de retrouver Daniel Katala, Annie Boujama, Leila Boutaleb et moi-même, enfin qui retrouve un peu aussi le micro, puisque ces derniers temps, j'étais plutôt assez absent pour des raisons personnelles. Voilà donc un sommaire riche et varié, comme on dit dans les grandes radios. Nous allons vous proposer une présentation bio-bibliographique qui est commentée aussi par Annie. Il y aura également la lecture d'un grand poème de Kateb Yassine intitulé « Le Vautour ». Lu par Daniel Katala, donc, qui nous a fait l'amitié de venir malgré certaines contraintes personnelles. Et puis Leila, fidèle à Canal Sud, donc, avec laquelle nous maintenons vaille que vaille cette émission intitulée Oxymore, tous les mercredis sur les ondes de Canal Sud 92.2, canalsud.fr. Net sur Internet. Donc aussi de la musique, de la musique qui accompagnera ces textes. Et donc sous la haute direction de Fabien, qui est à la manœuvre, nous nous jetons. Kateb.
On écoute Kateb.
On écoute Kateb. La biobibliographie.
C'est vrai que quand on quitte son pays, son village, on l'aime mieux parce qu'on sent mieux ce qu'on a perdu. C'est comme un manchot, par exemple, il sent encore plus le bras qu'il a perdu. La même chose pour l'exilé. Il pense plus à son pays que s'il y était. Parce que s'il y était, il n'aurait pas besoin d'y penser. Et justement, quand il n'y est pas, il y pense plus que ce qu'il y sent. Lorsqu'on quitte son pays, longtemps, on le perd de vue, et quand on y revient, on est perdu. Et ça, c'est terrible, parce qu'on le sent. Et les gens du pays le sentent. On devient étranger dans son propre pays. C'est ça le plus dur. Mais quand on y revient, si vraiment on y reste, on se retrouve, de toute façon, parce que les racines ne meurent pas.
Très heureuse parce que j'ai eu une mère et un père très sensibles qui aimaient la poésie, la musique. Bref, j'étais comme un poisson dans l'eau. Enfin, quand je me rappelle, jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans, c'était le bonheur absolu. Au début, j'ai été à l'école coranique. Par la suite, on a changé de patelin et là, bon. Mon père m'a dit, ben écoute, maintenant c'est les Français qui sont les plus forts, il faut que tu arrives à faire tes études en français. Bon, ben d'accord, j'ai été à l'école française. Mais alors là, à l'école française, c'est terrible, j'ai trouvé quand même mieux que ce qu'il y avait à l'école coranique. Et en particulier l'institutrice, de laquelle je suis tombé amoureux, terriblement amoureux. Une jeune fille terrible, très émouvante. C'est bien simple, si elle me donnait un devoir, je faisais tout le livre. Tout le livre d'arithmétique, mais alors vraiment, je faisais tout le livre. Tu vois, elle me donne un devoir, c'est un devoir. Mais si, moi, je dévore tout le livre. Et puis après, j'ai honte de le porter. Ça veut dire, on avait une soif, nous.
Oh,
Oui, c'est l'école que j'ai fréquentée, quoi.
Katabiassine.
Vas-y, vous écoutiez la voix de Katabiassine. On n'a pas entendu. Voilà, ça y est.
Très bien, mais alors, bon, nous avons écouté la voix de Katabiassine qui justement se présentait et parlait un peu de son début, effectivement, dans la vie. Donc, je vais y revenir un petit peu plus en détail. Nous avons donc emprunté cette bibliographie à deux supports, dont, bien sûr, une partie à Wikipédia et une autre à Katabiassine, écrit par Saïd Tamba aux éditions Segers, poète d'aujourd'hui. Il nous a semblé qu'elle reflétait le mieux le parcours prodigieux et mouvementé de Katabiassine, de sa naissance à sa mort, de ses écrits et déclarations. Bien entendu, il faut la croiser avec d'autres écrits nombreux dédiés à Katabiassine. Nous ne citerons pas ici la liste longue et contrastée de la vie et de l'œuvre de Katabiassine. Mort, il est aussi, sinon, plus vivant dans les sphères de la culture et de l'action politique. Certains de ses propos ont pris valeur de prédiction. On peut dire que le Irak algérien lui doit beaucoup, par sa liberté de ton, ses réparties incisives et imaginatives. Voyageons maintenant, sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans la vie de Katabiassine. Donc, Katabiassine est né vraisemblablement le 6 août 1929, vraisemblablement parce qu'il a été inscrit le 26 août, dans une famille chaoui, dans la wilaya de Guelma. Son père est avocat civil, et sa famille le suit dans ses mutations successives. Kateb entre en 1934 à l'école coranique de Sédrata, et son père le retire assez rapidement pour l'inscrire à l'école française Lafayette, qui s'appelle aujourd'hui Bouga, actuelle wilaya de Sétif, où sa famille va s'installer. Puis il rentre interne au lycée de Sétif, et il va être ensuite au lycée Mohamed Kerouani jusqu'à l'indépendance. Kateb est en troisième quand éclatent les manifestations du 8 mai 45, auxquelles il participe et qui s'achèvent sur le massacre de milliers d'Algériens par la police et l'armée française. Voilà d'ailleurs comment lui-même raconte ces journées terribles du 8 mai 45. À cette époque, au fond, je ne comprenais pas vraiment, bien que j'ai commencé à lire les journaux et assister à mon premier meeting. Ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et il y a eu la manifestation du 8 mai. C'était la victoire contre le nazisme. On a entendu sonner les cloches et on nous a annoncé qu'on allait être libérés. Je suis sorti de l'internat et j'ai vu des officiers français qui sablaient le champagne sur le trottoir. Et à un moment donné, j'ai vu arriver un immense cortège. C'était jour de marché. Beaucoup de gens venaient de la campagne. Et devant cette foule, il y avait des scouts et quelques-uns de mes camarades de collège. L'un d'eux me fit signe, je les rejoins. Et à peine a-t-on fait quelques pas que ça a été la fusillade. Une foule refluant et cherchant le salut dans la fuite. Je ne savais pas très bien où aller. Je suis rentré chez un libraire, je l'ai trouvé gisant dans une mare de sang. J'ai filé. Mon père était déjà gravement malade. Je suis revenu au village, les gens arrivaient de partout, les rumeurs les plus folles couraient. Et puis je n'avais jamais vu autant de monde. Chez moi, mon père allait très mal, ma mère aussi d'ailleurs. On a entendu des coups de feu, et le lendemain matin, on s'est aperçu que la folle du village avait été tuée près de l'église. Et puis sont arrivés les tirailleurs sénégalais. Deux ou trois jours après, en allant chez le coiffeur, je me trouve face à des inspecteurs de police qui me conduisent à la prison de la gendarmerie. Là, c'était le plus dur moment, parce qu'on fusillait les gens. Dans cette région, la répression a été très dure. Comme les autres, j'attendais. Je ne savais pas bien ce qu'on allait faire de nous. Et là, j'ai commencé à comprendre les gens du peuple. Devant la mort, la menace de mort, on sent beaucoup mieux les gens. On parle plus et mieux. On nous a transférés dans une prison à Sétif, puis dans un camp de concentration, une espèce de terrain vague où nous sommes restés plusieurs mois. On peut dire que c'est la première fois que j'ai découvert mon peuple. J'ai compris ce qu'il était en train d'endurer. Après la prison et tout ça, c'était fini. je ne voulais absolument plus continuer les études. Voilà. Alors il est définitivement acquis à la cause nationale. Tandis qu'il voit sa mère perdre la raison, il est exclu du lycée et il traverse une période d'abattement, plongé dans Baudelaire et Lautréamont. Son père l'envoie au lycée de Beaune. Il y rencontre Nejma, comme on l'a entendu, qui veut dire l'étoile, la cousine déjà mariée, avec qui il vit plusieurs mois, confiera-t-il plus tard. Et il publie en 1946 son premier recueil de poèmes. Il se politise et commence à faire des conférences sous l'égide du Parti du peuple algérien, de Messali Hadj, le parti nationaliste de masse de l'époque. En 1947, Kateb arrive à Paris, dans la gueule du loup, dit-il, et prononce en mai, à la salle des sociétés savantes, une conférence sur l'émir Abdelkader et adhère au Parti communiste algérien. Au cours de son deuxième voyage en France métropolitaine, il publie Nejma, ou le poème, ou le couteau, embryon de ce qui allait suivre, dans la revue Le Mercure de France. Journaliste au quotidien Alger Républicain entre 1949 et 1951, son premier grand reportage a lieu en Arabie Saoudite et au Soudan. À son retour, il publie notamment, sous le pseudonyme de Saïd Lamri, un article dénonçant l'escroquerie au lieu saint de la Mecque. Après la mort de son père, survenu en 1950, Kateb devient docker à Alger, en 1952. Puis il s'installe à Paris jusqu'en 1959, où il travaille avec Malek Haddad, ce poète, se lie avec Mohamed Issiachem, le peintre, et Armand Gatti, cet homme de théâtre, et en 1954, s'entretient longuement avec Bertolt Brecht. En 1954, la revue Esprit publie Le cadavre encerclé, qui est mis en scène par Jean-Marie Serrault, qui restera fidèle à Kateb tout le long de son parcours. Mais c'est interdit en France. Nejma paraît en 1956, et Kateb se souviendra de la réflexion d'un lecteur. C'est trop compliqué. En Algérie, vous avez de si jolis moutons. Pourquoi vous ne parlez pas des moutons ? Durant la guerre de libération, Kateb, harcelé par la direction de la surveillance du territoire, connaît une longue errance. Invité comme écrivain ou subsistant à l'aide d'éventuels petits métiers en France, en Belgique, en Allemagne, en Yougoslavie et Union soviétique. En 1962, après un séjour au Caire, Kateb est de retour en Algérie. C'est l'indépendance. C'est le temps d'assister à l'événement, retrouver les siens, aller chez lui vers l'Est, faire un bref retour aux sources, rencontrer des amis. Il reprend sa collaboration à Alger Républicain mais effectue de nombreux séjours à Moscou, en Allemagne et en France, tandis que « La femme sauvage » est publiée en 54 et 59 et représentée à Paris. Les ancêtres redoublent de férocité, la poudre d'intelligence, autres écrits, sont représentés encore en arabe dialectal à Alger en 1969. Il publie en 1964, dans Alger républicain, 6 textes sur nos frères les Indiens et raconte dans Jeune Afrique sa rencontre avec Jean-Paul Sartre, tandis que sa mère est internée à l'hôpital psychiatrique de Blida. La rose de Blida, dans Révolution africaine, écrit-il. En 1967, il part pour le Vietnam, abandonne complètement la forme romanesque et écrit ce magnifique texte « L'homme aux sandales de caoutchouc », pièce publiée, représentée et traduite aussi en arabe en 1970. La même année, s'établissant plus durablement en Algérie et se refusant à écrire en français, Kateb commence un grand tournant, à travailler à l'élaboration d'un théâtre populaire, épique et satirique, joué en arabe dialectal. Débutant avec la troupe du Théâtre de la Mer, fondée et dirigée par Kadour Naimi à Cuba en 1971, prise en charge par le ministère du Travail, Kateb parcourt avec elle pendant 5 ans toute l'Algérie, devant un public d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Ses principaux spectacles ont pour titre « Mohamed prend ta valise », l'immigration, bien sûr, et réapparaît l'héroïne ancestrale Kaïna, le roi de l'oiseau, Palestine trahie. Entre 72 et 75, Kateb accompagne les tournées de Mohamed prend ta valise et de la guerre de 2000 ans en France et en RDA. Au retour de la tournée en France, le groupe est délocalisé à Cuba, à Bab El Oued. Kateb est par la suite exilé, entre guillemets, en 1978 par le pouvoir algérien de Sidi Bel Abbès pour diriger le théâtre régional de la ville, une façon de l'éloigner. Interdit d'antenne à la télévision, il donne ses pièces dans les établissements scolaires ou les entreprises. Ses évocations de la souche berbère et de la langue tamazirt, ses positions libertaires, notamment en faveur de l'égalité de la femme et de l'homme, contre le retour au port du voile, lui valent de nombreuses critiques. Kateb avait définitivement opté pour un théâtre d'expression populaire. Dès le départ, la langue utilisée dans ses pièces était l'arabe maghrébin, langue vernaculaire, s'il en est, à fort substrat amazigh. Mais cela ne lui suffisait pas. Il rêvait de pouvoir faire jouer ses pièces en tamazigh, dans les régions amazighophones. C'est ce qu'il expliqua à Mustapha Benhimi, qu'il avait fait contacter par Ben Mohamed, le parolier des chanteurs Idir, pour donner des cours de langue amazigh aux éléments de la troupe théâtrale. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'international fut bientôt entouré, entonné en darija et en tamazir au début de chaque représentation. En 86, Kateb livre un extrait d'une pièce sur Nelson Mandela et reçoit en 87, en France, le Grand Prix national des lettres. Au Festival d'Avignon, en 1988, Le bourgeois sans culotte ou Le spectre du parc Monceau, écrit à la demande du Centre culturel d'Arras, pour le bicentenaire de la Révolution française sur Robespierre, Kateb s'installe en Drôme et fait un voyage ensuite aux États-Unis, mais continue de fréquents séjours en Algérie. Sa mort laisse inachevée une œuvre sur les émeutes algériennes d'octobre 1988. En 2003, son œuvre est inscrite au programme de la Comédie française. Instruit dans la langue du colonisateur, Kateb considérait la langue française comme le butin de guerre des Algériens. Et dit-il, la francophonie est une machine politico-néocoloniale qui ne fait que perpétuer notre aliénation. Mais l'usage de la langue française ne signifie pas qu'on soit l'agent d'une puissance étrangère. Et j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français, déclarait-il en 1966. Devenu trilingue, Kateb a également écrit et supervisé la traduction de ses textes en berbère. Son œuvre traduit la quête d'identité d'un pays aux multiples cultures et les aspirations d'un peuple. Il meurt le 28 octobre 1989 à Grenoble. Il dit, à l'époque avant, « Je suis devenu un mythe ». Il est enterré aujourd'hui au cimetière d'El Alia à Alger.
Si tu permets, juste une petite parenthèse, une petite digression. J'ai assisté aux funérailles de Kateb Yassin. C'était un événement comme on n'en avait jamais vu en Algérie. Un événement populaire et à la fois, pour la première fois, qui nous donnait à voir toute l'intelligentsia algérienne réunie dans un cimetière. Le cimetière El Alia est un cimetière un peu destiné aux grands du moment. Et Kateb Yassin a été enterré, je crois, à son corps défendant dans ce cimetière des honneurs. Et nous avons vu dans ce cimetière la représentation d'une Algérie plurielle qui, nous avons vu surtout des femmes entrées dans un cimetière musulman. Cela relève un peu de l'exploit à l'époque, parce que la femme, je ne sais quel texte religieux qui aurait été d'essence divine, a interdit à la femme d'entrer le premier jour des funérailles. C'est-à-dire que le lendemain, c'est les femmes qui vont aller se recueillir très tôt sur la tombe du défunt. Et donc, c'était un déchaînement de passion, de pleurs, même de controverses. J'ai vu un ministre algérien secoué par des acteurs du théâtre de Kateb Yassin qui lui disaient « C'est maintenant que tu viens, c'est maintenant que tu te rappelles que c'était ton ami quand vous étiez jeune. » Et les funérailles traînaient en longueur. Et soudain, un homme s'est levé en habit d'imam, un religieux, et qui a dit « Maintenant, nous devons enterrer cet ami des pauvres. » C'était un religieux. Alors qu'à la même époque, dans certaines mosquées, on n'arrêtait pas de fustiger Kateb Yassin, de fustiger les femmes. Et là, on a vu un religieux qui s'est déclaré être son ami d'enfance et qui était venu, il avait fait je ne sais combien, de plus de 500 kilomètres pour venir assister à ses funérailles. Et il a dit, maintenant, laissons-le se reposer. Voilà, c'est une petite digression pour donner un peu plus de vivacité à ce mythe.
I'm not
Extrait du cercle des représailles de Kateb Yassine. L'Akhdar. Ici est la rue des Vandales. C'est une rue d'Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca. Ah, l'espace manque pour montrer dans toutes ses perspectives la rue des mendiants et des éclopés, pour entendre les appels des vierges somnambules, suivre des cercueils d'enfants et recevoir dans la musique des maisons closes le bref murmure des agitateurs. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout avec la même blessure ombilicale qu'il n'est plus temps de recoudre. Et je retourne à la sanglante source, à notre mère incorruptible, la matière jamais en défaut, tantôt génératrice de sang et d'énergie, tantôt pétrifiée dans la combustion solaire qui m'emporte à la cité lucide, au sein frais de la nuit, un homme tué pour une cause apparemment inexplicable tant que ma mort n'a pas donné de fruits, comme un grain de blé dur tombé sous la faux pour onduler plus haut à l'assaut de la prochaine ère à battre, joignant le corps écrasé à la conscience de la force qui l'écrase en un triomphe général, où la victime apprend au bourreau le maniement des armes et le bourreau ne sait pas que c'est lui qui subit, et la victime ne sait pas que la matière gît inexpugnable dans le sang qui sèche et le soleil qui boit. Ici est la rue des Vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en cru où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. C'est un canon qu'il faut désormais pour m'abattre. Si le canon m'abat, je serai encore là, lueur d'astre, glorifiant les ruines, et nulle fusée n'atteindra plus mon foyer, à moins qu'un enfant précoce ne quitte la pesanteur terrestre pour s'évaporer avec moi dans un parfum d'étoiles, en un cortège intime où la mort n'est qu'un jeu. Ici est la rue de Nejma, mon étoile, la seule artère où je veux rendre l'âme. C'est une rue, toujours crépusculaire, dans les maisons perdent leurs brancheurs comme du sang avec une violence d'atomes au bord de l'explosion. Ici sont étendus dans l'ambre les cadavres que la police ne veut pas voir, mais l'ambre s'est mise en marche sous l'unique lueur du jour et le tas de cadavres demeure en vie, parcouru par une ultime vague de sang, comme un dragon foudroyé, rassemblant ses forces à l'heure de l'agonie, ne sachant plus si le feu s'attarde sur sa dépouille entière ou sur une seule des écailles à vif dont s'illumine son antre. Ainsi survit la foule à son propre chevet, dans l'extermination qui l'arme et la délivre. Ici, même, abattu, dans l'impasse natale, un goût ancien me revient à la bouche. Mais ce n'est plus la femme que m'enfanta, qui, ni l'amante, dont je conserve la morsure, ce sont toutes les mères et toutes les épouses dont je sens l'étreinte hissant mon corps loin de moi, et seule persiste ma voix d'homme pour déclamer la plénitude d'un masculin pluriel.
Voyez la poitrine aveugle, loin de l'amant sevré, jamais ne sera mûre, le sein noirci par l'absence. Plus une bouche ne saura m'écumer, l'Akhdar s'endort avec d'autres que moi. Vous m'aviez prévenu. J'avais rêvé la fusillade, mais il devait revenir au crépuscule. Je devais lui cacher mes pleurs et son couteau. et me voici vouée à la nuit solitaire. Veuve, jamais déflorée. Fleur aveugle, cherchant l'élu emporté en l'holocauste de formillaire qui hante sa corolle. Ainsi m'a quitté l'artage, la mâle fourmi qui traversa le parfum altier de ma couche pour tomber en ce tas de corps inconnus.
Et après, je redis. Je redis ça.
Pour toute réponse à mes appels, j'entendais des pas de soldats. Et j'ai beau errer encore aujourd'hui dans les lieux interdits où l'on se traîne sans pouvoir mordre, bête clouée au sol par une botte inattaquable dont la présence nous omnibule comme une promesse de lutte indispensable à la vengeance, que nous méditons sans un mot, sans une arme. Mais nous avons au moins la certitude d'être battus avec l'orgueil d'être invincibles. Puisque le seul ami a péri, plus que jamais je vais l'attendre. Je vais piétiner la poussière et le sang, ainsi qu'une génisse galopant vers une boucherie en quête d'une ressemblance perdue. Tant de visages à mes pieds, tant de spectres dispersés à ma poursuite, et nulle trace de l'artage. Le vautour. Je n'aime que l'intrus, disais-tu. Je n'aime que l'époux secret des vierges, l'amant de toute épouse à son déclin. Pourquoi m'avoir séduite? Moi, qui craignais de te séduire, disais-tu. Je n'aime que l'intrus, les scellés polygames, qui, toutes nous respira d'un même souffle calme parmi les herbes de l'oubli, et tend de main vers sa disgrâce. Voici la rose prise à la gorge, penchée sur son diadème, à bout de son destin. Mais comment supporter l'agonie de la rose sans vouloir l'égorger? Sombre amour sans prémisse. Verser si peu de ton sang, c'est le seul crime dont je sois privé. Jamais assez furtif à l'irruption soudaine de tes chimes, je ne pourrais te renverser. Verser si peu de ton sang, c'est le seul crime dont je sois privé. Sombre amour, sans prémisse. Mutine, offerte à l'obsédé, souvent la vierge se dénude pour un rapace timide et repoussant. Dès qu'elle parle à l'oiseau, il ne sent plus ses ailes. Sombre amour, sans prémisse. Lorsque son voile fut tombé, je n'avais plus la force de soulever ses cheveux. Oh, nudité secrète de la statue. En ce duel inassouvi, son regard fut reçu, ainsi qu'un sabre sur un sabre, et le vainqueur est resté sur ses gardes. L'innocence trahie prolonge la torture. Jamais sur son chemin aucun lion s'est endormi. Seul un aveugle,
un égaré, peut rêver de l'atteindre avec le mauvais sort pour complice. Et si je dépéris en trouant des cœurs ennemis, c'est que j'espère aussi à la longue t'abattre, car toute vierge insoupçonnable reçoit le coup de grâce par faveur. Quel rapace ne redouterait cet assassinat sans coupable? Où vaque le relent féminin du fantôme dont le hasard triomphe et dont succombe le meurtrier, si peu que le regard de la bête soit long, la beauté s'éternise, vaincue, son deuil n'a pas de fin. L'avons-nous torturée captive sur la vitre, la verte demoiselle, tirée de l'arbre par la robe et par le vent, ou l'avons-nous froissée d'un regard sur la vitre, saoulée dans son carrosse, ou ramenée dans l'herbe à petits pas? Sombre, amour sans prémisse, ai-je troublé sa pudeur pour qu'elle vienne me corrompre au prix d'une blessure atroce et recherchée? Rien qu'à sa lèvre jaillit un sang de proie, et de tout son long s'ouvre ce corps de poisson sur l'impatiente braise déjà nourrie si près de la candeur complice, comme un envahisseur ligoté par une inconnue, j'espère et je redoute, la gardienne évasive, assise dans la cendre de celui qui me précéda, dévoré par la langue, à ce culte féroce abandonné sans un mot devant la sourde apparition. Sombre amour, sans prémices, si tu soupires, le brasier se rallume. Tes larmes ne sauraient l'atteindre que si tu les contiens jusqu'à crever comme un orage. Mais puis-je m'empêcher de fumer sous la dent d'une si pure ogresse et vierge par surcroît? Traînée par la cruelle, entre la haine et la beauté, me voici même épris de ce désert. Sombre amour sans prémisse, impubère, elle a convoité ta violence impunie. Laisse-la se briser sur toi, cette baigneuse entourée d'îles d'où ses captives ne veulent s'échapper. Oh, vénéneuse ardeur de ses bonds, perle dissoute en son ardeur natale. Comment l'aurais-je découverte, cette inconnue, célèbre pour moi seule, si ses rivales ne l'avaient rendue si rare? Comment l'aurais-je découverte, cette inconnue célèbre pour moi seule? Elle a semé ses charmes comme autant d'explosifs, et je ne sais quelle sœur mal déguisée elle a poussé sur ce grabat pour vérifier jusqu'à nos songes. Mais qu'il veille ou qu'il rêve, l'amant n'attend son heure que de nuit, les jours de l'inhumaine étant comptés. Ah, nudité secrète de la statue, tu n'as pour moi qu'un ordre inespéré, mais je ne puis l'exécuter moi-même. Je ne sais quelle sœur mal déguisée elle a poussé sur ce grabat pour vérifier jusqu'à nos songes. Mais qu'il veille ou qu'il rêve, l'amant n'attend son heure que de nuit, les jours de l'inhumaine étant comptés. Oh, nudité secrète de la statue, tu n'as pour moi qu'un ordre inespéré, mais je ne puis l'exécuter moi-même. Que faire bouche à bouche, quand ce qui m'empoisonne semble vital pour toi? Quand nous risquons la chute à retenir ta robe au bord du gouffre chaleureux, car jamais tu n'auras que la raideur des pétales déjà mouillés pour traverser la cataracte, et ta première crue, loin de nos lits, hanté de rêves juvéniles, te livrera au fleuve ravageur, sachant que les noyades seront publiques. Le nourricier des fleuves s'est enfui. Je n'ai pitié, jaloux, de tes escortes que ta nombreuse obscurité, ô nudité secrète de la statue où t'ai-je vu ensoleillé, dans ta chambre ou dans ta chemise. Tu dors comme le ciel se vide ensoleillé, comme si l'amour culte en soi-même perdu offrait toujours l'immensité d'un point cardinal. Ne peut être amoureux que celui qui se fait la plus haute idée de l'amour. Après avoir jeté ton bourreau dans le vide, tu désespères de le voir atterrir, sombre amour sans prémisse. Encore faudrait-il que tu t'élances, et je dois recevoir ton poids, ah, nudité secrète de la statue. Est-ce entre nous la guerre? Dois-je te pousser au soleil avec une lance et t'accabler d'une chaleur hostile et prolifique? Va, chasse-moi, d'où tu risques la chute. Mon ombre te sera propice, ici foisonnent tes jumelles comme de la juste. Où sont les iris méprisants? Tiens, mes amis te croient malade et sont épris de ta pâleur. Adieu, pourvu que je sois libre de te décrire à mes amis, quitte à t'offrir aux plus perfides. Amis, dispersez-vous si elle danse entre deux mouchoirs de pourpre. Sur vous, craignez qu'elle retombe comme une abeille évanouie. Et si j'entre par surprise en son sépulcre, c'est d'elle que viennent la discorde et la passion. C'est une absurde nécessité d'isoler une morte si vive. Mais vous, sœur de la disparue, oubliette de son corps sans pareil, peut-être prévoyait-elle vos ironies lorsqu'elle m'ordonna « Marche, marche, n'attends pas mes suivantes, car tu verras pire beauté sur le chemin du retour. » Sombre amour, sans prémisse, en d'autres yeux que ceux qui la contiennent. Plutôt que d'être son amant, il lui fallut être son père. Jour après jour, la retrouver légère, quitter le monde avant qu'elle ne quitte le berceau. Il lui fallut humer la rose à son aurore avant le viol solaire et déchirant. Sombre amour sans prémisse. Je reviens au lever du jour, accompagné de la nocturne. Ah, cet hiver, j'ai les antennes brisées, la neige. Admire et fais le silence autour de ce forfait que de flocons moqueuses me dissimulent ton poids, ton attitude, pleuvant obstinément pour m'annoncer la perte et ton déclin. Sombre amour sans prémisse, en ce soleil avare et féminin, je crois entendre à la fenêtre, comme une averse déjà passée, au sosie de vider la morte et de se recueillir près de ce doux requin d'amour qui flotte encore, et nous revient le mal de mer. Le mal de mer, le mal de mer est sans remède, un passager sur deux vous le dira. Le mal de mer, le mal de l'air, le mal d'amour est sans remède. Sur deux amants porteurs d'épidémie, celui qui semble sauf sera l'inguérissable. Et le premier atteint, sans un nouveau comparse, ira confondre sa passion avec d'amères médecines. Le mal de mer est sans remède. Un passager sur deux vous le dira. Au milieu de la traversée, je vois des femmes écœurantes, rangées dans une caisse. Hélas, tout étourdi, froissé par quelque monstre souverain. Oh, noyez que l'une d'entre vous se lève, et nous remonterons à vos blessures, moqueuses. Ton vert cercueil disparu, va, songe, rejoindre ta subtile et sa nouvelle écorce évanouie de cet inséparable hymen, laisse-nous rire. Trop d'amour me relève auprès de l'insouciance en trop de noces éclatées. Sombre amour sans prémices. Remettez-moi à la morte, ou tuez-la. Ne dites pas qu'elle agonise, gonflée de larmes et de coups. Jadis, elle a porté à son vainqueur la gerbe des baisers refusés par ses lèvres. Elle eut assez de mes coups. La rebelle a ferré à ce double suicide sous ma cuirasse. Sombre, amour sans prémices. Oh, nudité secrète de la statue. Ce qui nous fera vivre, ce n'est pas le pain. C'est l'alcool et l'incertitude, équivalence de nos corps, sur la margelle d'un même puits, dont la fraîcheur unique à l'un de nous manque et sourit.
No.
Comment devient-on poète? Comment se cristallise la quête poétique? La vie est le rêve inséparable pour nommer le monde. Il faut d'un même mouvement porter sa mémoire et son écart. Ainsi disait Rainer Maria Rilke qui avouait « Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. » Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des pays inconnus, à des départs que l'on voyait depuis longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à des mers, à des nuits de voyage. Et il ne suffit pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Renommer les objets et les êtres en ouvrant les écluses de son propre imaginaire. Dans cette vanité lyrique, naît un entre-deux possible, habitable dans un réfléchissement commun. Grâce au poème, il y a une alternative. Dans l'univers de la parole poétique, on se trouve face à un problème momentanément insoluble. L'exercice de la poésie mène vers un tel affinement, à une recherche tellement poussée dans l'expression, à une telle concentration dans l'image ou le mot, qu'on aboutit à une impasse. Nombreux sont les poètes algériens qui ont cheminé de conserve sur les terres de la poésie et de la prose, confiait le grand romancier et poète Mohamed Dib. Selon Julio Cortázar, aucun poète ne tue les autres poètes. Il les range simplement d'une autre façon dans la bibliothèque vacillante de la sensibilité. Ainsi, et comme transcender l'idée déprimante du divorce de l'action et du rêve. À cet égard, sur les rivages lourds de tourments historiques du Maghreb, on ne parlera jamais assez de Kateb Yassine. En prête à Dostoïevski cette formule, nous sommes tous sortis du manteau de Gogol. On peut soutenir qu'il en fut relativement de même pour Kateb Yassine. Nombre d'écrivains maghrébins lui sont redevables d'une manière ou d'une autre. Un lien complexe, sinon ombilical, s'établira entre les écrivains fondateurs d'une nouvelle littérature, tel Kateb Yassine. Dès lors, ceux qui viendront après eux écriront comme sous le regard des précurseurs. Passion et ressentiment ne manqueront pas. émaillées ici et là de petites phrases provocantes ou mesquines. La révolte contre le père peut être une pièce sordide, n'est pas Raskolnikov qui veut. Katabiassine, lui aussi, a eu certainement ses admirations et ses détestations, comme ses malentendus et ses ruptures douloureuses avec de vieux compagnons tels Jean Sénac et Melk Haddad. Il n'était cependant jamais dans la mesquinerie. La divergence politique primée dans les désaccords, pareil au scorpion, toute colère dehors, j'avance avec le feu du jour et le premier esclave que je rencontre, je le remplis de ma violence, je le pousse en avant, avec ma lance. Et que la verve des scorpions le prenne et que le vent l'enlève chaque jour plus léger. Katabiassine, on peut l'affirmer, est désormais entré dans la légende algérienne. Au-delà de la littérature, du théâtre, il participe de notre quête identitaire qui embrasse dans un même élan dialectique Jugurtha, l'émir Abdelkader et les dockers du port d'Alger. Mais l'homme était plus simple que sa légende. Tant de gens du petit peuple ont pu le rencontrer en toute simplicité dans les cafés morts et les villages les plus reculés du pays où il donnait à voir sur les tréteaux de saltimbanques géniales la tragédie millénaire d'un peuple tantôt au sommet des périls, tantôt figé dans une muette résistance à l'imposture. Il prenait le temps de discuter avec les plus humbles des choses les plus complexes, contradictoires, il l'était. Car épris de dialectique et de questionnement, il n'en était pas moins avant tout poète dans le songe et la démesure.
Mon corps est une vieille valise, mon visage un visa de passeport. On me traîne de foyer banquise, de banquise en banlieue pôle nord. Charité frileuse et les frères présidents à vie. Il faut bien que ma vie se creuse un trou pour passer la nuit. Je suis excellent géographe, je connais toutes les cartes de séjour. Tous les paplards, tous les paraves, j'en ai fait plusieurs fois le tour. Le tour du monde des polices, des postes frontières au matin gris. Le tour des regards qu'on vous glisse quand on a l'accent indécis. Étranger où que j'aille, mes drapeaux, mes médailles ne sont que des chansons, juste un détail.
Il nous revient aux mémoires des moments fulgurants où nous pûmes l'approcher au milieu des années 70. Souvenir d'une conférence de son ami Messaoud Boulanoir de Sor Roselaine sur la littérature qu'il lui avait organisée à Alger. Kateb nous exhortant à tirer sur le quartier général dans les colonnes de l'unité, auquel il donnera plus tard un inédit où paraîtra l'un de ses rares entretiens à l'époque où il faisait flèche de tout bois contre le pouvoir. Aux présentations de ses pièces, hasard, peut-être. Il y avait toujours un panier à salade de la police. On avait sans doute peur que les drapeaux écarlates, brandis sur la scène, gagnent les rues. Souvenir aussi de cette longue journée de 1er mai passée en sa compagnie à son théâtre de Beb El Oued. Souvenir de rares visites vers la fin de sa vie où nous parlions de tout, sauf de sa maladie. Il mourra de leucémie à l'hôpital de la Tranche, à Grenoble. Il faut lire ou relire Katebiassine, le cœur entre les dents, de Ben Ammar Medjene, aux éditions Robert Laffont, 2006. Cette biographie hétérodoxe, en particulier les premières pages si émouvantes, consacrées à sa disparition et sa rencontre post-mortem. Et une sorte d'inventaire à la Prévert des maigres objets qui avaient accompagné Kateb dans son dernier voyage. Quelques livres de chevet, notamment Faulkner et Hölderlin. Chaque livre est un sémaphore, écrit Ben Ammar Medjene. Il y avait aussi la ville de Faulkner, soulignée d'un feutre rouge, ombre insomnieuse qui, bien qu'elle participe de la nuit même, repousse les ténèbres, parce que les ténèbres participent de cette petite mort que nous appelons le sommeil. C'est une phrase du texte de Faulkner qu'a souligné de sa main en rouge à l'hôpital. Hein. À l'hôpital hein. C'est avec l'histoire qu'Etebiassine avait surtout rendez-vous à lui seul. Il symbolise la littérature algérienne et la résonance de son œuvre a dépassé les frontières de son pays. L'homme, autant que l'écrivain, déroute. Pour Kateb, l'aventure poétique a commencé avec le grand séisme du 8 mai 1945, qui vit la répression de milliers d'Algériens à Sétif et Guelma, arrêtés témoins des massacres. Kateb Yassine trouvera dans les événements du 8 mai la matière d'une inspiration qui se hissera au rang d'un mythe. L'œuvre de Kateb Yassine est un lieu singulier où se mêlent, se perdent et s'enchevêtrent thèmes et images empruntés simultanément aux obsessions d'une sensibilité par l'étrange personnage de Nejma, aux épreuves précisément évoquées du combat national et du passé historique ou mythique de l'Algérie. Rarement un destin individuel, un moment de l'histoire d'une nation et les traditions les plus lointaines d'un peuple ont été aussi intimement liées. Ces lignes ont été écrites en 1967. Elles ne seront pas démenties jusqu'à sa mort en 1989. Dans ses romans, comme dans son théâtre, c'est la vision poétique qui l'emporte. Dès 1946, il avait publié un premier recueil de poésie soliloque. Dans Nejma, ou le poème du couteau, on trouve les éléments constitutifs de l'œuvre à venir. De là naîtront romans et pièces de théâtre. Nejma en 1956, le cercle des représailles que nous vous avons, dont nous nous avons présenté quelques extraits. Nejma est à la fois la mère, la femme sauvage, la rose de Blida, sa mère, qui a sombré dans la folie après les événements du 8 mai 45. Je vous conseille encore le livre dont Annie a parlé tout à l'heure, à savoir Kateb Yassine par Saïd Tomba, poète d'aujourd'hui, édition Segers, 1992. Voilà. Merci à Kateb et merci aux auditeurs.
Rien n'est à moi, tout est aux autres, le boulot, la terre et le pain.
Nous allons terminer avec un hommage,
un poème écrit par Marilyn Hacker qui l'a offert à Kateb Yassine. Ce poème, c'est il n'a pas de titre. Marilyn Hacker. Un ange passe, franchissement, éruption. Juste après une discordance, fait surface. Le miroir se brise dans la tasse. Un contresens pervertit le dialogue. Un verbe arrête le discours. Problème de temps. Danse et chant cessent sous chacun. Que l'ombre drape de velours être en puissance joue sur deux genres. sexe et nationalité montent, partis d'un long guttural ululement pour revendiquer ou négocier un privilège, s'impliquent dans la texture, la blessure du son, la surface offensée, au risque d'exploser, de s'abîmer. De s'abîmer dans de grands titres, passe-partout, guerre, peur, peur de la guerre, guerre nourrie, de peur latente, que les médias nous creusent au ventre. Il y a aussi une pièce sur la rue, un soleil d'hiver à 3 heures, la limpidité quasi parfaite des nuances d'un contre-ténor qui distille une cantate de Scarlatti. Il y avait la parole de l'exilé frappant, d'anathème en arabe tout Dieu, au nom duquel le massacre est sanctifié, sa voix engagée dans un combat qui faisait de son verbe musique de chair. Il y avait l'emblématique tasse de thé. Emblématique, il y a la théière qui fume sur un banc de bois, entre deux interlocuteurs, aussi prêts à se déclarer la guerre qu'à trouver le compromis qui sauvera la face. Dehors, strident, monte le contre-champ animé d'une ville qui tourne au crépuscule. Eux alimentent la conversation, experts qu'ils sont, dépeceurs de mots mous pointus qu'en rapace ils secouent, magistral jeu de diplomates et non d'exilés à cheveux et gilets gris qui meublent le vide des jours d'hiver. Les exilés qui tuent le temps d'hiver à coups d'arguments n'ont rien, sauf le temps d'argumenter. Comme d'autres font des vers, tandis que d'une éminence grise, Lucas, transmis aux militaires sur leur base, va nettoyer ville et enfants par le feu, tandis qu'un rédacteur en chef recense vos noms et pétitions, on se doute que d'autres nous fichent, que tel autre, dénoncé sous signature dans le Times, s'affolera de sa brève notoriété, verra son passeport non renouvelé, exilé inconnu, je vous suis redevable. Et j'emboîte le pas de vos arguments. Pour donner du poids à ces arguments, il a évoqué Nejma. Nejma perdu là-bas, son visage s'électrisé, miné par la distance. Karina, Nejma, Emma, la femme, nom jeté à la face d'un stade, l'héroïne, le premier amour il y a si longtemps. La mère, aux mains éloquentes, ce silence, tous ces silences de femmes, hurlées, millénaires, silence encore dans ces échanges autour d'un verre de vin. Avec Paul Celan, à y noyer français et allemand dans la scène froide hypothèse qui fut compagne, guide et réconfort du dernier juif en novembre sur le banc. Si la dernière juive en novembre du banc se levait et repartait, transit, rue de Tournon, s'offrir un cognac, s'enfiler un ballon de rouge avec Roth, cela les laverait-il du goût des cendres et de mensonges? Quelle colonne de fumée prémonitoire monte de ce ranch au Texas à Saint-Chrome, Imacier, l'Algérien parmi eux souffre de la même soif. Nous étions tous sous pseudonyme, nom de côte, d'amour, de plume, nom de guerre, simple translittération, diphtongue d'ailleurs énoncé à la file, palindrome, calembour branché sur l'intraduisible, tu étouffé, racine d'une syllabe. Tu étouffé. Ses racines d'une syllabe, de sa première langue qu'elle distillait sur la page, écrite de nuit dans un village, ailleurs, au milieu d'inconnus, cachés, dénoncés, signés, Nicole Sauvage. Le soleil dort le toit de la mairie. Trop froid, trop tard. Les noces sont parties. Le ciel de février reste célibataire, court tout droit à l'enterrement. Car viendra la guerre. Car nous manifesterons, ce sera la guerre, et page après page sur la toile, il en viendra qui compenseront censure et information déformée, franche, inexorable éruption, un tank pousse ses chenilles de cette guerre-ci, celle d'après.
شيم كسر Майданес вивостиш джар. Бекри канет тбелли хсар. Тбелли хсар. Тбелли хсар. كنحب الضو نستنى نهار كنحب نسخن شعل النار كنحب نشرب من ودن عمر كنحب نبكي نتفكر نتفكر راني ساكنة وحدي عايشة في طرف الدنيا الدار لي بنا جدي
On va peut-être donner quelques informations utiles. Hein. Il va y avoir une commémoration, un hommage. Il n'y a pas que Canal Sud Toulouse qui rend hommage à
enfin, quand même.
À Kateb Yassine. Mais important. On a fait pour le mieux. Donc voilà ce que, qui est proposé. C'est le, du jeudi 7 au samedi 9 novembre à la CAF Poésie, en collaboration, enfin c'est à Véroès, l'association, en collaboration avec la CAF Poésie. Kate Biassine, poète rebelle, entre guillemets, hommage politique, musical et politique à une figure majeure de la littérature algérienne en partenariat avec la CAF Poésie. Ça, c'est le texte de Averroès. Trois soirées éclectiques avec Ben Amar Medjen, intellectuel universitaire algérien, auteur d'une biographie et ami proche de Kate Biassine. Pascal Papini, acteur, metteur en scène, directeur pédagogique du Conservatoire du Théâtre de Toulouse et fin connaisseur de l'œuvre de Kate Biassine, avec la participation d'une flopée de groupes et de musiciens en dehors des sentiers battus. Orion Express, Semaya Kem, et bien d'autres artistes à partir de textes choisis dans Soliloque, alternés avec des extrapolations poétiques aussi improvisées que la musique. Chaque soir, échange sur la situation actuelle en Algérie et scène ouverte avec de jeunes auteurs de la scène algérienne. Programme détaillé, horaire et, circulation. CAF Poésie comme et CAF Poésie comme agenda. Merci de votre attention.
En tout cas, moi, je dois souligner la prestation magnifique de Daniel Catala. Ça a été super. J'ai adoré, ainsi que la tienne.
Merci,
à vous toutes, à vous tous, merci quand même aussi. Ça m'a fait passer un excellent moment. Mais pour vous dire que Kata Biassine, effectivement, répondait toujours la même chose. Hein, à toutes les questions que lui posaient les journalistes. J'ai eu une enfance magnifique. Le 8 mai 45, ensuite, je suis allée à Paris. Alors, c'était le rôle des enfants qu'il avait mis. Il disait que les enfants, c'était partout, ils se conduisaient comme des flics. Les, quand tu demandais à un enfant où se trouve un tel, eh ben, ils le savaient. Pour lui, tous les enfants étaient des flics. Donc, en Algérie, toute la population, pour lui... C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Les enfants sont des flics.
Sous ta responsabilité.
Bien sûr, ça n'engage que moi.
Parce que tu as travaillé, Leïla.
Tu as travaillé avec... avec Kate Biassine.
Il était à la radio quand j'ai commencé. D'accord. Il faisait partie des gens qui devaient contrôler un petit peu le sens culturel. Et puis, je ne sais pas, lui et Issachem, hein, ils étaient tous les deux là-bas. Finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un peintre aussi.
C'est son jumeau.
Oui, oui. Ils étaient tous les deux magnifiques. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, il a écrit. Je ne sais pas ce qu'il a été... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, elle a été interdite. Vraiment, j'ai
Et toi, quand Kate Biassine est morte, tu as été censurée. Tu n'as pas eu le droit de...
Non, c'est avant. Moi,
avant. Oui, je suis bête.
Avant, il était encore vivant.
Quand tu voulais parler de lui, tu étais censurée. C'était pas...
La bande a fichu le camp. Il se dit, le jour où il est mort, on n'a même pas retourné cette bande. Je me demande ce qu'elle est devenue, si quelqu'un l'a piqué, si on en a fait un livre. Tant mieux si on en a fait un livre.
Oui, c'est bien clair, sûr.
Parce qu'il avait une... C'était une heure et demie. Et j'étais à l'antenne, donc je passais la bande. Il donne un coup de fil. Arrêté. C'est incroyable. C'est ça, la censure au niveau des radios.
C'est-à-dire qu'Kate Biassine, personne ne pouvait le censurer. Il avait sa liberté de parole. Dès qu'il s'exprimait, ça créait des mouvements une demande, enfin, etc. Mais, par exemple, quand certaines de ses pièces passaient au théâtre, on pouvait remarquer qu'il y avait toujours des paniers à salade. Parce que, alors une fois aussi à Constantine, il y a l'une de ses pièces, une fresque, La guerre de 2000 ans. Dans La guerre de 2000 ans, il y a une scène où on parle de la lutte du prolétariat. Et donc, il y a des drapeaux rouges sur la scène, etc. Et donc, les conservateurs commençaient à crier au loup, disons, les jeunes, à l'époque, il y a une organisation de la jeunesse, une organisation unique officielle, qu'on a accusé de favoriser justement le communisme, etc. Et alors que, en réalité, les drapeaux rouges étaient hissés sur scène, eux, ils ont déclaré au pouvoir central que c'était dans les rues de Constantine, etc. Et comme j'étais plus ou moins impliqué, j'ai dû expliquer à un grand responsable algérien, qui n'est plus de ce monde, que c'était des drapeaux dans la pièce. Et que c'était, on parlait d'un événement historique, le 17 octobre, de la révolution d'octobre. Et donc, dans la révolution d'octobre, il y avait des drapeaux qui étaient rouges.
Oui, oui, c'est
étonnant. Il m'a dit, c'est ça. Bon,
j'espère qu'il n'était pas responsable de la culture, cet homme.
Et puis après, je l'ai vu à la fac d'Alger, où il avait donné une grande conférence, Kateb Yassine. Alors moi, j'arrive pas à mettre les dates, comment ça s'est passé. Quand il est arrivé à la fac centrale, il y a eu toute la fac était là pour assister à son allocution. Je n'ai rien compris. Kateb Yassine était tantôt interdit, tantôt...
Non, c'est...
J'ai pas compris son itinéraire.
Non, il ne faut pas oublier son itinéraire. Il ne faut pas oublier que c'était sa génération qui était plus ou moins au pouvoir et qu'il avait... il restait quand même des relations d'amitié. Alors, l'itinéraire de Kateb Yassine a rejoint le Parti communiste très, très tôt.
Et là aussi, interdit. Hein? C'était interdit, le Parti communiste, ici.
Non, ça a été interdit plus tard. Oui. La première année de l'indépendance, ça a été interdit par Ben Bella. C'est-à-dire, il y a eu un décret. Comme on a interdit aussi l'alcool. Il y a deux décrets.
Oui, c'est vrai.
Il y a un décret interdit.
Le communisme se noie dans l'alcool. Le couteau, l'alcool, le communisme.
Donc, Kateb Yassine, c'était quelqu'un qui était à part. C'est pour ça qu'il...
Il
m'avait raconté, c'est peut-être la première fois que je le dis publiquement, quand j'ai passé la journée du 1er mai avec lui. Et pourquoi la journée du 1er mai précisément, c'est parce que une association de travailleurs ici en France qui avait vu les pièces de Kateb Yassine voulait les monter. Ouais. Alors ils ont envoyé en formation quelqu'un de leur association qui devait être donc hébergé, accueilli par Kateb Yassine. Il se trouve qu'avec un autre ami qui s'appelle Aris Rimetrev, parce que c'était son cousin à lui, nous sommes allés l'accueillir et nous l'avons amené à Kateb Yassine. Et là, pendant une journée, on a discuté. Alors je lui ai dit, voilà, on te reproche parfois, enfin, les progressistes, c'est-à-dire le parti de l'avant-garde socialiste, de dire des propos un peu outrés ou outranciers et qui, d'après eux, font le jeu de la réaction. C'est-à-dire, plus tu dis des choses comme ça... Ah, il me dit, on ne sort pas de cette histoire. Quand j'étais au parti, j'avais écrit un poème sur la violence révolutionnaire. Je l'ai montré à Béchir Hadjani, qui est poète aussi, et qui était un dirigeant du parti, mais qui était poète. Il m'a dit, non, c'est trop, etc. Alors, il m'a dit, après, je lui ai dit... Alors, après le 1er novembre, il m'avait dit, c'est de l'aventurisme ce que tu écris. Il m'a dit, je suis retourné le voir, parce que lui, il prenait le passage à l'action. Il a dit, alors nous sommes tous devenus des aventuristes, toi aussi. Et voilà, donc c'était quelqu'un qui échappait à... Il pouvait se proclamer stalinien, alors qu'en même temps il est libertaire. C'est un personnage. Il vivait vraiment.
Il habitait dans le centre familial de Ben Aknoun. Il n'avait pas de domicile fixe.
C'était un choix.
En tout cas, c'était au centre familial. Il n'avait pas de domicile.
Non, mais il y a aussi le fait que le centre familial de Ben Aknoun.
C'était malheureux. C'était malheureux la manière dont il vivait.
Non, mais centre familial de Ben Aknoun, c'était là où il y avait les réfugiés latino-américains.
Oui, bon, il était avec eux, c'est vrai.
C'était une ambiance.
Des échanges. Mmh.
Oui, voilà, non, c'était pas. Il n'était pas misérabiliste. Hein. Il était, il était pauvre. Enfin, pauvre.
C'était un poète.
Voilà. Enfin,
non, mais c'est vrai que c'était un haut lieu de résistance et de rencontres et de fêtes.
Et puis une belle histoire d'amour. L'histoire d'amour, la conclusion de l'histoire d'amour de Kate Biasin avec sa cousine
Nejma.
Alors, Kate Biasin, quand il est mort, il a été rapatrié, bien sûr, en Algérie. Et le même jour est mort son cousin, qui était un grand homme de théâtre.
Oui.
Ah oui.
Était un grand homme de théâtre, qui était directeur. De la direction culturelle universitaire et du théâtre, et il connaissait très bien, j'ai oublié le nom maintenant, de celui qui était directeur du théâtre du Pavé,
Paul Berger
qui m'a parlé de ce cousin. Et donc ils ont été rapatriés tous les deux dans le même avion, dans des cercueils différents, bien sûr. Et il y avait à l'arrivée la fameuse Nejma qu'on voyait pour la première fois. Elle est venue, elle avait une rose à la main, elle l'a déposée sur
le cercueil
de Kate Biasin. Voilà.
Eh ben, dites
parce
donc,
que certains pensaient qu'elle n'avait jamais existé.
D'accord.
Et qu'il avait inventé cette histoire.
Eh bien, lui-même me l'a dit. Mmh. Alors, il m'a dit, est-ce qu'elle a existé ou pas? Il m'avait posé la question.
Ah,
il m'avait posé la question.
Il te testait. Alors, il te testait.
Et qu'est-ce que tu avais répondu?
Je n'en sais rien. C'était lui, le poète. Hein. C'était pas moi. C'était lui, le poète.
Allez, l'Ahramo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et Kateb est le fils de l'actuel acteur Reda Kateb qui est un acteur.
Qui va chanter. Alors,
voilà. Ouais. Là, c'est. Non. On va écouter Amazir Kateb.
Non, Amazir. Il ne chante pas. Il est acteur du cinéma français. C'est un grand acteur. Je parle du neveu de Mustapha Kateb, son neveu. Il est acteur, Reda Kateb, qui a joué dans Django Reinhardt récemment. Il a joué dans le film et il joue aux États-Unis.
Et musicien.
Oui, ça, je sais.
Et donc, on va entendre son fils qui nous fait un poème. Il nous fait un poème de Kateb Biasin. On écoute ça.
Non, c'est pas ça. Thank you.
loves to work and slave, but why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man mad about me. He's funny that way. I can see no other way. Better play.